Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Merci de nous accorder votre attention.
Commence chaque journée comme si elle avait été écrite pour toi.
Tout ce que tu fais dans la vie, tout choix que tu fais a des conséquences. Quand t'agis sans réfléchir, c'est comme si tu laissais la vie faire des choix pour toi.
Si tu peux voir ce qui n'existe pas, conçois dès lors que tu peux ne pas voir ce qui existe.
Rien n'est impossible.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur RDC. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 16 décembre et votre émission À vos oreilles avec Alizé peut commencer. Aujourd'hui, je serai sur un thème des contes de Noël avec un très joli livre, Les contes de Noël autour du monde, qui me permettra de conter quelques histoires de Noël à travers différents pays du monde. Auditeurs charentais, auditeurs de France et d'ailleurs, merci pour votre écoute, pour cette émission qui est la dernière de cette année 2023. Mais bien sûr, je serai présente le samedi 20 janvier 2024 pour ouvrir cette émission sur des nouveaux contes que je vous raconterai. Et oui, cette année 2023 prend fin. Ça y est, un nouveau cycle va s'ouvrir. Alors justement, comme nous sommes à une petite semaine de Noël, j'avais envie de vous lire quelques contes de Noël pour rester vraiment dans le thème. J'ai aussi choisi quelques musiques, bien sûr, que je vous passerai pendant l'émission qui sont autour de Noël. Et je commencerai donc cette émission avec un très joli livre, Les 24 contes de Noël autour du monde. Donc c'est un précieux ouvrage. Je remercie très chaleureusement Delphine, ma voisine, sans qui je n'aurais pas pu bien préparer cette émission, parce que je n'avais pas de si joli livre. Et ce livre, avec ses 24 contes, traverse plusieurs pays du monde et nous raconte les diverses chansons, les divers rituels qu'il y a autour de Noël dans ces pays-là. Donc je trouvais ça intéressant parce que ça va nous permettre de voyager un peu, d'aller voir comment ça se passe dans d'autres pays comme le Mexique, le Liban. J'ai aussi choisi l'Italie, Israël, l'Iran. Et puis, bien sûr, je commencerai par la France, la région de la Bretagne, avec ce petit conte, La cacophonie de Noël. Alors, avant de commencer J'espère déjà que vous allez bien, que malgré ce début de mois très compliqué, très pluvieux, j'espère que vous avez quand même les pieds au sec. Et puis, je suis très contente déjà depuis septembre de commencer cette émission, de la tenir tous les mois, tous les troisièmes samedis du mois, de pouvoir vous avoir comme auditeur. Alors, je sais qu'aussi, il y a des gens qui me suivent qui m'écoutent en tout cas sur Internet. Donc, merci aussi à vous. Et puis, il est temps de commencer cette émission. Donc, je commencerai avec la région de la Bretagne, la cacophonie de Noël. Et puis, bien évidemment, je vous passerai quelques musiques de Noël pendant cette émission. Bonne écoute à vous tous. Alors, la cacophonie de Noël, 7 décembre, France-Bretagne. Au royaume des animaux, le cochon, le dindon et le hérisson chantent à plein poumon. Entre le bœuf et l'âne gris, dors, dors. Le chacal, l'orignal et le narval remarquent d'un air glacial. On n'y risque pas de dormir, c'est qu'il chante affreusement mal. Le perroquet, le poney et le scarabée en ont rapidement assez. Silence, s'il vous plaît! C'est trop laid, pitié! L'hirondelle, la tourterelle et la coccinelle vont même jusqu'à se plaindre aux anges du ciel. Ils chantent comme des gamelles. Fais quelque chose, Gabriel. C'est sûr, ils vont gâcher Noël. Aussitôt, l'ange Gabriel déploie ses ailes et d'un ton fraternel salue cochon, dindon et hérisson. Je vous annonce une grande nouvelle. Les amis, il va falloir travailler vos cantiques. Reprenez après moi. Do, ré, mi. Les couinements ignobles des trois animaux ont raison de la patience angélique de Gabriel. Après des heures de vocalise, le cochon, le dindon et le hérisson chante toujours aussi fort et aussi faux. Le wapiti, le grizzly et la chauve-souris voient même Gabriel jeter sa lyre de dépit. C'est sans compter sur le dromadaire, le ver de terre et le hamster qui ne veulent pas lâcher l'affaire. Ils s'en vont demander l'aide de Saint-Michel. Après avoir écouté leur prière, le chef des armées célestes fend les airs pour arrêter l'horrible concert. « Taisez-vous donc, animaux tapageurs, vous allez réveiller notre Seigneur !» Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Les animaux braillent de plus belle. Saint-Michel se bouche les oreilles et grommelle. Ma lance terrasse les dragons. Nul doute qu'elle pourrait aussi percer cochon, dindon et hérisson. Face à la colère de Saint-Michel, le cochon fait sa tête de cochon. Le dindon glougloute avec indifférence et le hérisson se hérisse. Ils n'ont que faire de la lance de l'archange. Personne ne pourra les empêcher de chanter des louanges. Le puma, le panda et le koala n'en reviennent pas. Si Saint-Michel a échoué, qui pourra raisonner ce trio buté? En dernier recours, tous les animaux agacés marchent jusqu'à la citadelle de Raphaël. L'archange est en train de préparer un remède à base de fiel. L'ange qui guérit et accompagne sait se rendre doux comme le miel. Il entend les réclamations des bêtes. « Je m'occupe de ces fortes têtes. Il faut juste prévenir tous les anges du ciel. Venez aussi, vous ne serez pas de trop. Le cochon, le dindon et le hérisson sont bien arrivés jusqu'à la crèche. L'enfant Jésus dort et la Sainte Famille ne semble pas incommodée par leur couplet. Lorsque résonne le Gloria, c'est un son très beau, très pur qui se déploie. Animaux, bergers, archanges, tout le monde chante. C'est très mélodieux, curieux. Nous n'entendons même pas les trois affreux, constate Saint-Michel, perché sur le toit de la crèche. Comment as-tu réalisé cet exploit, cher Raphaël ? Demande Gabriel. Je n'ai rien fait du tout. Une chorale est une assemblée ouverte, où les voix s'unissent les unes aux autres. Il y a les voix graves, les voix chevrotantes, les voix aiguës et les voix nasillardes. Tous les défauts finissent par se compenser. Même les voix du cochon, du dindon et du hérisson se fondent dans la multitude de celles des anges. Pour ne pas entendre les casseroles, il faut juste que les anges et que les hommes ne cessent jamais de chanter. Chantons donc la gloire de Dieu, mes frères, c'est ce que nous avons de mieux à faire. Voilà pour ce premier conte de France, de Bretagne. Maintenant, je vous invite à écouter ce deuxième conte qui se passe le 10 décembre en Iran. La galette des rois. Melchior en a plus qu'assez. Le roi mage a des ampoules aux pieds. Sa jambe droite lui fait mal et son dos est en compote. L'or qu'il porte dans son sac ne lui a jamais paru si lourd, si inutile, si encombrant. Pour couronner le tout, il s'est perdu dans un pays inconnu. Un voile de brume est tombé soudain sur le chemin. La caravane qui le suivait a disparu dans le brouillard avec sa monture. Il est seul et désemparé. Melchior gratte sa longue barbe blanche et plisse les yeux pour tenter de voir un peu plus loin que le bout de son nez. Rien. Il ne voit rien. Le monde est gris tout autour de lui. Quelle tristesse! L'étoile pour laquelle il a tout quitté a fui au moment où il avait le plus besoin d'elle. Il doute. Il se demande ce qu'il fait là. Pourquoi? Pourquoi est-il parti déjà? Non, vraiment, il n'a plus l'âge de courir après les étoiles. Il s'arrête un instant pour se calmer et pour prier. Lorsqu'il ouvre les yeux, un point lumineux danse dans le lointain. Serait-ce sa chère étoile? Il se précipite vers l'astre, mais c'est un feu. Un grand feu sur lequel un homme, à la peau sombre, est en train de cuire une sorte de pain tout plat. Melchior le salue joyeusement, se présente et s'étonne. Pourquoi établir son campement ici? Au hasard, Balthazar, répond l'étrange personnage en riant. Plutôt que d'errer dans la brume comme une âme en peine, je me prépare un petit casse-croûte. Il vaut mieux se reposer et reprendre des forces en attendant que l'étoile reparaisse. Melchior sursaute en entendant Balthazar évoquer l'étoile. Devant le mépris des autres savants et l'indifférence des caravaniers, le roi mage avait fini par se persuader que l'étoile ne brillait que pour lui. Mais Balthazar la cherche comme lui. et il vient également de loin. Ses vêtements bariolés, ses sandales usées, et le gros dromadaire allongé près de lui le prouve. Melchior comprend très vite que ce drôle de cuisinier est aussi un astronome réputé dans son pays. Alors que les deux hommes échangent avec passion sur les constellations, un troisième larron fait son apparition. Lui aussi a été attiré par le feu. Lui aussi est perdu. Asseyons-nous donc, mes frères, les invite Balthazar, et goûtons la galette. Sans se faire prier, les deux hommes s'installent autour du feu. Le troisième voyageur s'appelle Gaspard. Il est très jeune et vient d'Extrême-Orient. Sa peau est cuivrée et ses beaux vêtements dégagent un agréable parfum d'encens. Il se masse la nuque en soupirant. « J'ai un torticolis, c'est à force de regarder les étoiles. » Décidément, Melchior est bien tombé. Au milieu de nulle part, il a trouvé deux chercheurs d'étoiles. Gaspard fait bouillir de l'eau pour leur préparer une infusion, tandis que Balthazar sort un gâteau rond et doré du feu. Il le partage en trois et tend un morceau à chacun. C'est une spécialité de mon pays, une galette fourrée de crème à base d'amandes, explique l'astronome au visage d'ébène. Elle est royale, ta galette, le félicite Gaspard en jetant des feuilles séchées dans l'eau frémissante. D'un goût divin, ajoute Melchior en savourant sa part. Faites attention à ne pas vous casser une dent. J'ai malencontreusement laissé tomber un bouton de mon manteau dans la pâte. Je n'ai pas réussi à le repêcher. C'est Melchior qui trouve le bouton étincelant dans sa part de galette. Le vénérable roi mage le brandit comme s'il s'agissait d'un trésor et les deux autres l'applaudissent. Après avoir mangé toute la galette et bu la délicieuse boisson chaude de Gaspard, Melchior se sent revigoré. Balthazar déclare « La brume s'est dissipée. Je propose que ce soit Melchior qui passe devant. Il est le plus expérimenté et c'est lui qui a trouvé mon bouton égaré. Il saura nous mener vers la tanière de l'étoile. » Le vieux roi mage accepte. Tout à coup, il a beaucoup moins mal à la jambe. Son fardeau est beaucoup plus léger, car il est désormais partagé. Sur le chemin, il a trouvé des frères animés de la même espérance. Il le sait, tout l'or qu'il porte ne vaut pas une histoire d'amitié forgée dans la poussière des sentiers. Alors, dans la lumière de l'étoile, Melchior se lève, imité par Gaspard et Balthazar, car l'astre mystérieux vient de reparaître dans le ciel, invitant les égarés à se remettre en marche, ensemble. Très jolie histoire aussi, très joli conte sur le thème des rois mages en Iran. Très beau voyage là aussi, je vous propose de continuer encore avec l'Italie. Cette fois-ci, ça se passe au 11 décembre. Un joli conte, La crèche de Greccio. Sur le chemin pentu qui montait vers Greccio, un homme vêtu d'une robe de bure jetait des miettes de pain aux oiseaux. Le marcheur avait une bouche rieuse et des yeux étrangement lumineux, comme si toute la beauté de la montagne de Greccio était entrée en lui pour l'habiter. Son nom était François. Tout en nourrissant les oiseaux, il leur parlait de sa joie de retrouver bientôt le minuscule village italien qui émergeait entre les arbres. Il célébrait Noël avec ses frères religieux. Arrivé au hameau perché, il fut accueilli avec chaleur et simplicité par ses habitants. François prépara une veillée de Noël exceptionnelle pour les villageois, si bienveillants. Dans la grotte de Greccio, il installa une crèche vivante avec de vrais animaux. On n'avait jamais vu cela avant. François voulait rendre concret le mystère de l'incarnation. Dieu devenu bébé. Le saint désirait que les gens comprennent qui était vraiment Jésus, qu'il appelait lui-même l'enfant de Bethléem. En cette nuit du 24 décembre 1223, des paysans venus de toute la vallée, portant lanternes et flambeaux, gravirent la montagne pour participer à la messe de minuit. Ils étaient attirés par les chants des frères qui se répercutaient dans les bois et par la rumeur qui disait qu'un grand saint s'était arrêté à Greccio pour Noël. En entrant dans la grotte, ils virent le bœuf et l'âne, des gerbes d'herbes et de fleurs colorées, et dans le cœur, un joli bébé endormi, image vivante de Jésus-Christ. Le nourrisson avait été placé dans une mangeoire, garnie de foin, qui servit aussi d'autel au prêtre. L'enfant dormait d'un sommeil de plomb. Rien ne semblait pouvoir le déranger. François s'approcha et le prit dans ses bras, avec une immense douceur. Le petit ouvrit les yeux, attrapa la barbe du frère et éclata de rire. Touché, l'assemblée des croyants comprit que si Jésus était endormi dans leur cœur, François venait de le réveiller par ses paroles et son exemple. Sous les étoiles claires, précieuses et belles, François prêcha alors la joie. La messe fut dite et ne fut jamais oubliée. Les habitants de Greccio racontèrent si bien les merveilles de cette nuit sainte, que l'année suivante, on se mit à reconstituer dans les grottes ou les étables la scène de la naissance de Jésus. C'est ainsi que saint François d'Assise réinventa la manière de vivre Noël. Depuis ce temps, partout dans le monde, dans les foyers, dans les églises, petits et grands installent une crèche pour fêter la nativité. Et voilà pour ce dernier conte du 11 décembre en Italie, la crèche de Greccio. Le dernier, bien sûr, juste avant que je vous passe une chanson de Noël. Et je reviens après la chanson de Noël pour continuer mes contes de Noël. Bonne écoute à vous.
C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux, les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire dodo, et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos. Au son des cloches des églises, ta distribution de surprise. Et quand tu seras sur ton beau nuage, viens d'abord sur notre maison.
Voilà, nous allons continuer ce voyage à travers le monde autour des contes de Noël. Je vous ai mis une ancienne version de Tino Rossi, je crois celle de 46, Petit Papa Noël, une édition originale, une chanson pour moi qui fait partie de ces chansons qu'on aime écouter à la période de Noël. Alors je continue les contes. Cette fois-ci, nous sommes autour du 12 décembre. Nous sommes au Mexique, donc il semble que là-bas, il y ait aussi une fête religieuse qui se fait autour du 12 décembre. Le bouquet de Lupita. Ce 12 décembre, les Mexicains fêtent Notre-Dame de Guadalupe, la sainte patronne du Mexique. C'est un jour très important pour les chrétiens d'Amérique. Comme de nombreux pèlerins, Lupita, la petite indienne, a décidé de se rendre à l'église de Notre-Dame de Guadalupe pour rendre hommage à la Vierge apparue sur la colline de Tepeyac. Alors, j'ai une petite annotation à préciser pour Tepeyac que je vais lire. En 1531, au nord de Mexico, la mère de Dieu s'est manifestée à un Indien aztèque nommé Juan Diego. Le 12 décembre 1531, l'image de Marie s'est imprimée miraculeusement sur sa cape appelée Tilma. Celle-ci est toujours visible dans l'église construite en l'honneur de Notre-Dame. Lupita voudrait déposer au pied de la tilma un cadeau pour la Vierge et son enfant, car c'est bientôt l'anniversaire de Jésus. Nous sommes 13 jours avant Noël. Marie est sur le point d'accoucher. Au Mexique, tout le monde sait que Notre-Dame de Guadalupe est enceinte. La ceinture à double pan qu'elle porte sur le ventre en est le signe. Le problème, c'est que Lupita n'a rien à offrir. Dans la cahute où elle habite avec son grand-père, il n'y a aucune décoration et pas un peso pour le moindre présent. Ne pleure pas, Lupita. Indita Mia la console, son grand-père. Dégourdie comme tu es, tu vas trouver quelque chose pour Notre-Dame. Lupita sèche ses larmes et embrasse son grand-père. Elle songe à la robe rose de la Vierge de Guadalupe. Celle-ci est ornée de fleurs des collines. Voilà la solution. Lupita cueillera des fleurs sauvages sur le chemin qui mène à l'église de Tepeyac pour les offrir à Marie. La fillette part confiante vers la colline. Mais elle a beau fureter partout, elle ne trouve pas la moindre marguerite. Résignée, elle finit par cueillir des feuilles vertes toutes simples. Lorsqu'elle entre dans l'église, les pèlerins chargés de riches cadeaux se moquent d'elle. « Regardez cette pauvre petite indienne avec ses mauvaises herbes. Quelle idée, un bouquet de feuilles ! Quel cadeau misérable pour Notre-Dame !» Mais Lupita n'écoute pas. Elle continue d'avancer. Au pied de la tilma, la fillette dépose son offrande. Et c'est alors que devant les dévots médusés, les feuilles vertes virent au rouge flamboyant. La petite indienne vient de livrer à la Vierge un bouquet d'étoiles écarlates. Quelle beauté ! Tous veulent voir le miracle. Les mauvaises langues se répandent immédiatement et offrent des cadeaux à Lupita. La petite fille quitte l'église, couverte de présents. Le jour de Noël, c'est sûr, elle reviendra porter un bouquet pour la Vierge. Les Mexicains, quant à eux, n'oublieront pas la plante merveilleuse qui s'épanouit en étoiles pourpres. Ils l'appellent encore aujourd'hui « Fleur de la nuit sainte ». Une petite annotation aussi est précisée pour cette dernière phrase que je vais vous lire. La fleur de la nuit sainte, dont les feuilles changent de couleur, est également appelée poinsettia. En 1825, Joël Poinsett, premier ambassadeur des États-Unis au Mexique, en rapporta des boutures aux Américains. La fleur d'un rouge resplendissant est alors baptisée poinsettia. Elle se répand dans le monde, ornant les maisons et les églises durant l'Avent. On la retrouve notamment dans celle de Tepeyac, devenue basilique de Notre-Dame de Guadalupe en 1904. Et voilà pour ce conte du Mexique. J'espère aussi que celui-là vous a plu. Je vais continuer. Cette fois-ci, nous allons partir au Portugal. Au Portugal, où le 14 décembre, il semble que là-bas, il y ait une fête religieuse, en lien bien sûr avec Noël. Donc je vous propose de la découvrir tous ensemble. La maison du pain. Aujourd'hui, mon grand frère Thiago et ma grande sœur Catarina ont sorti les santons de leur boîte pour installer la crèche de Noël. Nous les avons manipulés avec précaution parce qu'ils sont fragiles. Nous étions tellement concentrés sur les figurines de céramique que nous n'avons pas fait attention à João, notre petit frère. Ce coquin a marché sur les tables et l'a complètement écrabouillé. Catastrophe ! La Sainte Famille n'avait plus de logement. On était tous bien embêtés parce qu'on savait que Saint Joseph n'avait pas pu trouver une place pour la Vierge dans la salle commune. Et puis nous, on se débrouillait pour caser l'abri qui devait finalement les accueillir. « On n'a qu'à les installer dans mon palais de princesse », a proposé Catarina. « C'est parfait. Jésus est le Fils de Dieu. Il mérite de naître dans un magnifique château. » « Mais non, s'est indigné Thiago. On ne peut pas loger la Sainte Famille dans un palais clinquant. Dieu est né pauvre parmi les pauvres. Il a choisi de devenir le plus petit d'entre nous pour nous montrer son amour. Alors un château de princesse, ça ne va pas du tout. » J'ai trouvé un carton. On n'a qu'à mettre du papier roché dedans. Cela fera une jolie grotte, ai-je proposé. Mais tout le monde fait ça, c'est nul, a rétorqué Thiago en secouant la tête. Ce qu'il faudrait, c'est recréer toute la ville de Bethléem, a repris Katharina. Thiago a protesté. On n'a pas le temps, elle est trop compliquée ton idée. Pour toi, tout est toujours trop compliqué, a bougonné Katharina. Une belle dispute était sur le point d'éclater. Et tout ça à cause de la crèche. C'est vraiment trop bête. Heureusement, l'heure bénie du goûter a sonné juste à ce moment-là. Papa a mis tout le monde d'accord en apportant du chocolat et une énorme broa qui sortait du four. La broa est une spécialité portugaise, un pain de maïs avec une croûte épaisse et croustillante que papa réussit mieux que quiconque. Il l'a posée sur la table et a dit « Les enfants, savez-vous que Bethléem signifie « la maison du pain » en hébreu ?»« Quel nom étrange !» me suis-je exclamé. Papa a coupé une tranche dans la miche, bien ronde, et puis nous a expliqué. Pas si étrange quand on y réfléchit. Jésus est le pain vivant, descendu du ciel. Il s'offre en nourriture durant la messe. C'est le mystère de l'Eucharistie. Je comprends mieux pourquoi Dieu a choisi de naître à Bethléem et pourquoi Marie a couché Jésus dans une mangeoire, a ajouté Thiago. Qu'il est intelligent, mon grand frère, ai-je pensé en subtilisant la miche de pain. Hé, mais qu'est-ce que tu fabriques avec le goûter ? S'est écriée Katharina. Ma grande sœur n'était pas contente parce que j'avais creusé la boule de pain pour ne manger que la mie. Je n'aime pas trop la croûte, surtout qu'elle était vraiment très dure, car papa l'avait un peu trop cuite. Pour ne pas me faire gronder, j'ai improvisé. « Je fabrique la maison de Jésus !» J'avais été bien inspirée. Suivant mon idée, papa a continué de creuser la miche pour ne laisser que la croûte trop cuite, qui formait maintenant une grotte dorée. Nous avons partagé la mie entre nous avant de placer les santons à l'intérieur du pain évidé. La Sainte Famille semblait bien installée dans ce nouvel abri. Notre crèche était sacrément belle et originale. On en aurait mangé. Et voilà pour ce joli conte aussi du Portugal. Alors j'ai peut-être pas forcément bien prononcé certains noms, prénoms, mais en tout cas très joli conte avec cette crèche très originale creusée dans la boule de pain. Alors je vais continuer, cette fois-ci nous partons en Tunisie. Tunisie, nous sommes le 17 décembre, il semble que là-bas aussi il y ait une fête autour de Noël. Donc je vous propose de la lire, elle est très courte. Et après je vous proposerai une pause musicale pour une chanson bien sûr sur le thème de Noël. Nous partons donc en Tunisie, 17 décembre. L'arbre des oiseaux. Un immense olivier se tient près de la crèche. Dans ses branches, les oiseaux du ciel se sont perchés pour mieux contempler le plus bel enfant de l'univers. Mêlant leurs chants à ceux des anges, ils fêtent sa naissance. Drôle d'arbre de Noël, il abrite des colombes et des colibris, des volatiles ramassés en boules qui forment comme un feuillage vivant. Sur la plus longue des branches, les bergers peuvent compter des centaines de paires d'ailes différentes. Et puis soudain, un bébé moineau apparaît sous l'étoile scintillante. Léger comme une plume, comme un flocon de neige, L'oisillon se pose avec délicatesse tout au bout du rameau. Il y a juste un peu de place pour ses toutes petites pattes. Mais, crac, la belle branche casse. Tous les oiseaux s'envolent. L'enfant ouvre les yeux sur le ciel. Une nuée de plumes s'élève vers la lune. Pendant des heures, les colombes et les colibris en équilibre s'étaient serrés sur l'olivier. À cause d'un moineau qui ne pèse presque rien, tout bascule. Les oiseaux se dispersent aux quatre coins du monde pour chanter la gloire de Dieu. Comme si le poids d'un minuscule oiseau pouvait tout changer. Comme si la présence d'un tout petit bébé suffisait pour que l'amour soit répandu. Très joli conte aussi de Tunisie, très tendre, beaucoup d'émotions. Je vous propose une petite pause musicale et on se retrouve de suite après.
You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice, he's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Oh, you better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Sleeping, he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.
Et oui, avec Frank Sinatra, nous passons toujours un très bon moment. Une deuxième musique s'est lancée, mais qui va très rapidement se couper. Voilà. Excusez-moi, c'est les aléas du direct. Parfois, tout ne fonctionne pas comme on pourrait le vouloir, le souhaiter. Mais c'est ça aussi qui fait le charme du direct. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ces petites musiques de Noël qui nous mettent bien dans l'ambiance. Et puis, je vais pouvoir continuer les contes. Alors, cette fois-ci, nous allons partir au Japon. Nous allons partir au Japon à la date du 18 décembre, manifestement là-bas. Il se passe aussi des choses autour de Noël et nous avons donc là un petit conte autour donc des grues. Les grues de papier, c'est le thème et le titre de ce conte que je vous propose d'écouter tous ensemble. Les grues de papier. En silence, Shuzaku prend une feuille de papier carré. une jolie feuille avec des motifs bleus qu'il plie en triangle. Il rabat les pointes, aplatit les coins, retourne le pliage. Il fait tous ses mouvements automatiquement. Au bout de quelques minutes, une grue turquoise apparaît entre ses doigts experts. Depuis le début de l'Avent, Shusaku a réalisé 50 grues de toutes les couleurs. Comme chrétien au Japon, c'est sa manière à lui de préparer Noël. Faire une grue en origami, c'est comme dire une prière pour la paix. Faire une grue en origami, c'est se souvenir de Sadako Sasaki. Shusaku pense à la fillette d'Hiroshima lorsqu'il tire sur les ailes de ses grues. Comme tous les enfants japonais, il a appris l'histoire de Sadako à l'école. Elle commence en 1945 avec le largage de la bombe atomique au-dessus d'Hiroshima. La ville est instantanément détruite et des milliers de Japonais sont tués. Sadako, qui n'a que 2 ans, réchappe miraculeusement au bombardement alors qu'elle se trouve à 2 kilomètres de l'explosion. Elle grandit et devint une bonne élève, joyeuse et sportive. Mais à 11 ans, la petite fille tombe gravement malade à cause des radiations de la bombe atomique. Pour lui redonner espoir, la meilleure amie de Sadako lui raconte la légende des 1000 grues. Quiconque plie 1000 grues de papier verra son vœu exaucé. Il suffirait de fabriquer 1000 oiseaux pour guérir de la leucémie. Leurs ailes porteraient la prière de Sadako. Alors Sadako se met à plier des grues. Le moindre morceau de papier qui passe entre ses mains est transformé en oiseau merveilleux. Elle utilise même les étiquettes de ses flacons de médicaments. À la 644e grue, Sadako meurt malgré sa foi et son courage. Elle a 12 ans. Ses camarades de classe et ses amis, très émus, finissent de plier les 1000 grues. Longtemps après la disparition de Sadako, des enfants du Japon et du monde entier continuent de réaliser des origamis. Il les envoie à Hiroshima en souvenir des enfants victimes de la bombe et de la guerre. La grue est devenue un symbole international de la paix grâce à Sadako. La veille de Noël, Shusaku expédiera lui aussi ses oiseaux à Hiroshima. Là-bas, il y a une statue de la petite fille portant une grue dorée et des colliers d'origami qui virevolte dans le vent. Sur ce monument des enfants, il est écrit « Ceci est notre cri, ceci est notre prière pour construire la paix dans le monde. » Très joli aussi petit conte. Je les découvre en fait en même temps que vous. Je me suis réservé cette surprise en fait de lire les contes et de les découvrir en même temps que vous. Très joli conte, poétique, assez dur, qu'on retrouve du Japon. Très très joli. Et le symbole des grues, symbole de paix. Nous aussi, nous avons nos grues qui passent en Charente, qui sont passées là justement très récemment avec leur grande forme en V et leur cri très particulier. Et nous avons compris qu'effectivement l'hiver s'installait quand les grues partent et quand elles reviennent aussi, quand elles repassent par la Charente. Toujours est-il que nous allons continuer nos contes. Cette fois-ci, nous allons vers Israël. 23 décembre, une date manifestement importante là-bas avec le parfum de Noël. Je vais lire ce conte. Je vous souhaite une bonne écoute. Le parfum de Noël. Il y a belle lurette que je n'entends ni ne vois plus rien. Le flair, il ne me reste plus que ça. Alors je traîne ma truffe par les chemins pour sentir et ressentir. Mon monde a la couleur des odeurs. Cela suffit au vieux chien de berger que je suis. En cette nuit inoubliable, j'ai suivi mon pasteur. Mon maître était tout imprégné de l'odeur de ses brebis. Le bouquet familier du musc, de la laine et de l'herbe sèche. Nous étions curieusement nombreux sur les sentiers ce soir-là. Mille fragrances flottaient au-dessus de la terre remuée. La senteur de la foulée humaine, le fumet des troupeaux, les fleurs inexplicablement écloses. Les étoiles scintillaient sans doute dans le ciel de Bethléem. Elles déversaient sur la campagne une huile délicieusement parfumée. L'arôme indéfinissable devenait plus fort. Au fur et à mesure que nous nous rapprochions de ce lieu où tous convergeaient. Nous sommes arrivés devant l'étable. Oui, c'était bien une étable. Je reniflais l'odeur de la paille fraîche, le feu qui crépitait dehors, le crottin, la laine tiède d'un bœuf, le pelage très doux d'un âne. Et subitement, je fus pris d'un doute. Une étable, vraiment ? N'était-ce pas plutôt un temple ? Maintenant que j'étais entrée, je reconnaissais la senteur exquise de la myrrhe. Une brume amère, boisée et humide. Des vapeurs d'encens montaient dans les coins comme des prières. Mon flair n'était-il pas en train de me trahir à son tour ? Pour ajouter à ma confusion, des doigts lourds de bagues se posèrent sur ma tête. La main qui me caressait exhalait un parfum exotique et assurément précieux. L'homme avait deux compagnons. La barbe de l'un dégageait des effluves fruitées et épicées. Je distinguais, dans le vêtement de l'autre, des essences orientales. Un je ne sais quoi de magique et d'étoilé. Je m'assis près d'eux, en rêvant qu'ils étaient trois rois étrangers. Je divaguais. Trop d'anomalies olfactives. Je me réfugiais au fond de la bâtisse pour me ressaisir. La tête me tournait agréablement. Je zigzaguais sous la voûte des mondes, humant le parfum des anges et des siècles à venir. Le futur ruisselait de cannelle, de girofle, de mousse verte. Je distinguais encore l'orange et le sapin. Les odeurs vous emportent toujours ailleurs, mais je devais revenir au présent. Je voulais sentir le cœur du mystère. Je m'approchais doucement, attiré par le souffle floral d'une jeune femme. Frisson de la rose et du lait, une mère donc. Ce qui émanait d'elle était si pur, si émouvant, j'aurais pu l'appeler odeur de sainteté. Tout près d'elle se tenait nul, sans doute l'époux. Il fleurait la résine et le lys puissant, sueur et sueur en notes de cœur. Ce bon père avait dû courir cette nuit. mais l'inquiétude avait laissé place à la paix. Le couple adorait l'enfant. Je comprenais que c'était pour lui que bergers et rois, anges et animaux s'étaient réunis ce soir. Je respirais son parfum divin. Ce nouveau-né sentait le pain chaud. Je vis le grain broyé, la miche partagée. Enveloppé par la brise légère de son esprit, j'inspirais encore ce baume de pur amour qui se répandait aux confins de l'espace et du temps. Très beau conte aussi. On ressent très très bien ces odeurs de cannelle, de girofle, la douceur de la maternité. Très joli conte du point de vue du chien. C'était très agréable aussi à lire. Je vous en propose un autre, je vais continuer, et après une petite pause musicale. Alors cette fois-ci, nous revenons plutôt en France, dans les Alpes de Haute-Provence cette fois-ci, sur la date du 24 décembre. Donc là, vraiment sur le moment de Noël. Et le thème de ce conte est le santon cassé. Célestin. Le santon de terre cuite a triste allure. La peinture de son visage est écaillée. Il lui manque un bout de genou et sa main gauche est cassée. C'est un vieux santon qui a vu trop de Noël. Le 1er décembre de cette année, il n'est donc pas placé dans la crèche. On le jette directement dans la poubelle de la cuisine. Au milieu des déchets, Célestin se lamente. Mon apparence est trop pitoyable. Je ne suis plus digne de figurer, parmi les anges et les bergers. Mais je voudrais quand même me rendre à la crèche pour voir Jésus une dernière fois. Dans la poubelle, les moutons de poussière et les épluchures de légumes se moquent de lui. Mais lui ne les écoute pas. Il se débat dans l'espoir de Noël. À force de s'agiter dans tous les sens, il fait basculer la poubelle. Libéré de sa prison d'ordures, il saute de joie et se met bientôt en route vers la crèche. Au bout de quelques jours de marche, il est forcé de s'arrêter. Sa jambe lui fait mal. La crèche semble si loin. Il n'est toujours pas sorti de la cuisine. Malgré la douleur, le santon repart en claudiquant. Après bien des efforts, il finit par atteindre le salon. Célestin zigzague entre les jouets éparpillés lorsque surgit Moustache, le gros chat noir de la maison. L'animal, intrigué par cet étrange petit personnage, lui donne quelques coups de patte. Terrifié par les griffes et les dents pointues du chat, Célestin hurle « Va-t'en ! Va-t'en, gros matou !» Bien loin de fuir, le chat saisit le santon dans sa gueule, passe par la chatière et l'emporte au fond du jardin. Comme Célestin ne bouge plus, Moustache ne le trouve plus drôle du tout. Il finit par l'abandonner au milieu d'une plate-bande. Le petit santon est d'abord soulagé de voir partir le félin. Puis il comprend que Moustache l'a mené loin, très loin de la maison et de la crèche. Célestin est si vieux, il se sent si fatigué. De tristesse, il se met à pleurer. C'est alors qu'il entend un murmure. « Sois fort et prends courage, Jésus t'attend. » Le petit santon lève les yeux, une fleur magnifique se penche vers lui. « Prends un de mes pétales pour essuyer tes larmes. » Et la fleur nacrée fait tomber sur la tête de Célestin un de ses pétales blancs. « Oh, merci !» dit Célestin en séchant ses pleurs avec le morceau de fleur.
Mais qui es-tu ?
Je suis l'Hélébore. On m'appelle aussi Rose de Noël, parce que je fleuris au cœur de l'hiver. Je n'oublierai pas tes mots et ta douceur. Réconforté par l'Hélébore, Célestin reprend son chemin. Il voyage des jours durant entre les herbes pleines de givre qui lui paraissent une jungle glacée. Il trébuche, tombe souvent, mais se relève toujours. Son désir de voir Jésus est plus fort que tout. Au milieu du jardin, Célestin compte les jours qui le séparent de Noël. Il ne lui reste plus qu'une semaine avant la naissance de Jésus. Il doit se hâter s'il veut arriver à temps et ne pas finir congelé au milieu des feuilles mortes. Il fait très froid. La neige commence d'ailleurs à tomber. C'est tellement joli. Un énorme flocon se pose tout près de lui, léger, blanc, duveteux. Mais ce n'est pas un flocon, c'est une colombe. Le bel oiseau se met à roucouler. Que fais-tu là, petit santon ?
Je vais à la crèche voir Jésus.
Tu es si petit, monte donc sur mon dos, lui propose l'oiseau. Célestin s'accroche au cou de la colombe qui décolle dans l'air empli de flocons. Elle dépose le santon sur le rebord de la fenêtre du salon. Célestin n'a pas le temps de lui dire merci. Elle s'est déjà envolée dans la nuit. De là où il se trouve, Célestin peut voir la crèche et le bon feu qui crépite dans la cheminée. Il pense qu'il n'a jamais été aussi proche de son but, ni aussi loin. Un carreau de verre le sépare de Noël. Tandis que dehors, Célestin grelotte de froid, une jolie assiette de porcelaine est déposée de l'autre côté de la fenêtre. Au fond du plat, un bonhomme de pain d'épices bien dodu se prélasse. Célestin toque à la vitre pour lui faire signe. De sa main blessée, il pointe la crèche. Le petit bonhomme de pain d'épices sort à peine du four. Il a très chaud et il est bien content d'ouvrir à Célestin qui le serre très fort dans ses bras pour le remercier. Le bonhomme de pain d'épices réchauffe le santon. Et le santon rafraîchit le pain d'épices.
Merci, pain d'épices, tu es bien bon. Sans toi, je me serais transformé en santon de neige.
Penses-tu donc ?
Frappez et l'on nous vous ouvrira.
Qui a dit cela ?
C'est Jésus. Je m'en vais justement le retrouver.
Alors bonne route à toi. Moi, je reste là. J'aurais trop peur de me faire manger par le chat.
Célestin salue le pain d'épices. Il glisse le long du rideau et se réceptionne sur le tapis moelleux du salon. Apercevant le chat, il se cache sous les franges du tapis et s'endort aussitôt. Le lendemain, clopin-clopant, il reprend son chemin. Après quelques heures de marche, il arrive au pied du buffet sur lequel on a disposé la crèche. Il lui semble un instant que le meuble est un sommet inaccessible. Mais le santon a la foi, une foi à déplacer les montagnes. Il rassemble ses dernières forces et grimpe sur le sympa, installé juste à côté du buffet. De branche en branche, il se hisse jusqu'à l'étoile de l'arbre de Noël. Elle est à la hauteur de la crèche et figure l'astre de Bethléem. Depuis l'étoile, il se jette alors dans le ciel de crépon, bleu nuit. Il atterrit sur la mousse fraîche au milieu des moutons, fourbu mais heureux. Pendant tout le temps de l'Avent, le courageux petit santon a marché vers Jésus malgré les doutes et les obstacles. Il atteint finalement son but le jour même de Noël. Plus ravi que le ravi de la crèche, Célestin se positionne en dernière ligne, derrière le poissonnier et le rémouleur. Il veut se faire discret pour ne pas risquer de terminer encore une fois à la poubelle.
et puis Célestin ne se sent pas digne du premier rang. Il dit cette prière simple avec un sourire abîmé. « Jésus, je t'offre mes blessures et tout le chemin parcouru pour arriver jusqu'à toi. » Les anges prennent alors Célestin par la main. Ils écartent doucement les autres petits personnages de terre cuite pour que le santon cassé voit mieux l'enfant Dieu. Face à face avec Jésus, Célestin ferme les yeux de bonheur. Il est au ciel. Et voilà pour ce dernier conte de Noël. Je vous propose un moment de musique. N'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez au 05 45 95 09 87. Je peux tout à fait répondre à vos appels hors antenne. Et vous êtes bien sur RDC. Je vous souhaite une bonne écoute musicale.
Beau soir d'hiver, près d'un grand sapin, naquit dans une humble étable le petit Jésus, cet enfant divin. Et depuis, pour les bambins, c'est Noël sous un ciel de lumière. Les enfants sagement à genoux ce soir-là font tout bas leur prière. Doux Jésus, entends-tu, réponds-nous. Et Jésus, descendu sur la terre, plein d'amour en ce jour solennel, fait surgir de partout, à plaisir, des joujoux, ce mystère, c'est Noël. Cette belle nuit que le monde attend nous rappelle notre enfance par des souvenirs de Noël d'antan. Et depuis cet heureux temps, c'est Noël sous un ciel d'espérance. Les bergers, messagers du Seigneur,
vont chantant, célébrant la naissance de celui qui conduit au bonheur.
J'ai connu des Noëls à l'écart de la ville où l'on partait joyeux, des torches à la main. C'était avant l'avion, avant l'automobile, et le froid nous mordait par les petits chemins. L'église tout entière, illuminée de cierges, tremblait de tous ses murs pendant minuit chrétien. Car nous venions nombreux prier la Sainte Vierge, c'était mieux qu'au théâtre. Ça ne coûtait rien. Noël d'autrefois, vous aviez une âme, un je ne sais quoi. Nous faisions au retour un vrai repas de fête. Ma mère cuisinait, j'étais le marmiton. Mon père pétrissait de la pâte à galette. On embrochait un porc et cinq ou six chapons. Dans la salle où trônait un sapin formidable, décoré de bougies et de papier d'argent, pour avoir le menton à hauteur de la table, des tripotés d'enfants se hissaient sur les bancs. Noël d'autrefois, vous aviez une âme, un je ne sais quoi. Noël d'autrefois. À présent, nous avons des sapins en plastique. La neige est fabriquée par un atomiseur. La bougie a fait place à l'ampoule électrique. La bûche sort tout droit de chez le confiseur. Plus besoin de sortir, la messe est retransmise par toutes les radios et la télévision. Nous avons Monseigneur en direct de l'église. Et quand on a sommeil, on tourne le bouton. Noël d'autrefois, toute mon enfance
à vos oreilles avec Alizé se termine. Pour cette émission, je ne mettrai pas mon générique. Je vais laisser filer les quelques musiques de Noël que j'avais choisies. En tout cas, je vous remercie à tous pour vos appels. Je vois que le téléphone sonne encore, donc je vais garder quelques minutes encore pour répondre. J'espère que cette émission vous a plu. Moi, elle m'a fait énormément plaisir. J'ai trouvé ça très agréable de pouvoir vous conter, de vous bercer avec ces contes comme quand on était petit. Je suppose que pour vous tous, ça vous rappelle beaucoup de souvenirs. En tout cas, nous nous retrouverons en 2024. D'ici là, moi, je vous souhaite un très bon Noël, de très bonnes fêtes en famille. Prenez soin de vous. Et on se retrouve le 20 décembre. À vos oreilles avec Alizé. À très bientôt. Bon week-end à vous.